Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Initiative solidaire et citoyenne où on a le plaisir de retrouver Jordan Vial. Bonjour Jordan.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors lors de la dernière émission, tu nous as initié un petit peu à la Kabbalah, ou plus exactement tu nous as donné la définition de Kabbalah et tu vas poursuivre un petit peu ton cheminement en essayant d'aller un petit peu plus loin et de parler de la transcendance.
Voilà. Alors la Kabbalah, il n'y a pas de définition. Ça essaye de mettre des définitions, mais il n'y en a pas. Et vous allez voir pourquoi. Dans le dernier épisode, nous avons approché la Kabbalah dans sa transcription avec les lettres Q-A-B-A-L-A-H. Et ce mot est traduit par réception, révélation. Mais peut-on vraiment lui attribuer une traduction ? De nos jours, on a tendance à confondre la Kabbalah avec un Q, avec une branche mystique du judaïsme, un peu comme le soufisme qui est la branche mystique de l'islam. Cette Kabbalah s'écrit plutôt avec les lettres, voilà, avec un K et deux B, K-A-B-B-A-L-E. Et là, c'est une exploration pointue et érudite, basée sur des exégèses, des commentaires, des textes fondateurs liés au judaïsme. C'est fort riche et intéressant. La Kabbalah s'y est souvent plongée pour inspirer certains initiés de cette tradition théosophique et méditative. Mais comme vous allez le voir, la Kabbalah du code source reste libre de toute interprétation religieuse et ne peut se laisser confondre en aucune définition. La Kabbalah vivante continue à chaque instant à recréer le rêve qu'on appelle réalité, comme s'il émanait d'elle un faisceau qui projette sur ses propres ondes cette réalité holographique qui ne fait que la formuler et la mettre en lumière dans et par nos psychismes. Par ce faisceau apparaissent des formes de conscience réceptrices, différenciées par leur propre longueur d'onde, captant et retranscrivant dans des formes de vie diversifiées des éclats de la lumière une. Ces éclats sont comme des instantanés du réel et leurs caractères éphémères exigent de modeler leur expression dans un langage qui évolue au rythme de l'ouverture du focal des consciences collectives et individuelles. Et la Kabbalah est facétieuse car à peine se laisse-t-elle approcher, à peine commence-t-on à croire qu'on la saisit, qu'on peut la définir, la stabiliser dans un mental qui éperdument cherche à la posséder, qu'elle déconstruit cette forme de saisissement pour qu'on ne puisse l'y emprisonner ou s'y identifier. Dans son langage initiatique, la Kabbalah se révèle à travers les matrices vibratoires des lettres qui décrivent le processus dans lequel l'être apparaît, s'apparaît à lui-même, déclenchant ce choc psychique qui non seulement nous fait apparaître, mais fait jaillir cette conscience d'être. On voit bien que rien ne peut enfermer dans une définition définitive ces éclats de lumière créateurs. C'est pourtant ce qu'essaie de faire le mental, car il ignore être l'instrument de la conscience. Il fait ce pour quoi il est conçu. Il focalise et tente de saisir, de décortiquer, de nommer ce qu'il a attrapé et d'en faire des petites cases, des documents référentiels pour sa bibliothèque, sa mémoire, mais là je parle de la mémoire avec un petit M. Et ça a du sens tant que le mental reste à sa place d'instrument de la conscience. Par lui, elle joue à mettre en équilibre deux forces contraires. Celle du saisissement, qui se fait par une concentration, une contradiction, une condensation, le fameux coagulat des alchimistes, et c'est donc une force de compression qui tente de comprimer un éclat de l'énergie incommensurable, et elle va aussitôt être opposée à la puissance supralumineuse, insaisissable, illimitée, qui ne pouvant être contenue, va faire imploser ce saisissement. Et voilà le solvé des alchimistes. Coagulation, dissolution. C'est ce choc explosif, cette déflagration d'énergie qui fait apparaître, comme je le disais, la forme holographique d'une conscience psychique. Par elle, le faisceau de la Kabbalah vient d'éclairer la scène, vient de se mettre en scène. Réalité éphémère. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est ainsi que se révèle l'être en sa propre conscience d'être. C'est ainsi qu'il s'autoconnaît et que nos psychismes se mettent en scène à l'image de ce processus de révélation. Des chocs de force dans des chocs de forme, des éclats dans des éclats, pour donner corps à l'être, corps au champ. Ce corps pour la Kabbalah est cette onde qui s'étire des fréquences supralumineuses aux fréquences sous-lumineuses. Cette substance fluide et multidimensionnelle et multiforme. Un peu pour vous donner une image, comme le corps multidimensionnel de Mahananda Moyi dont nous avons parlé dans l'épisode EMI 5. Quelles que soient les forces informationnelles que combine la Kabbalah, elle ne peut qu'être explosive puisque née de l'énergie une, pure et sans limite. Les sagesses anciennes décrivaient déjà ce processus métaphysique de révélation avant qu'on tente de les effacer, de les tronquer ou de les noyer dans des religions. Aujourd'hui, nous y revenons pas à pas par le biais de la science, mais il faudra encore des décennies pour que le regard matérialiste et séparateur soit remis en question par les chercheurs. Remettre le mental à sa place, cesser de croire que la matière produit la conscience, alors que la matière est une condensation de l'énergie même de la conscience. Nous ne produisons pas la conscience, nous apparaissons d'elle, nous baignons en elle. Nous sommes les éclats de sa lumière, nous sommes elle, dans ces dimensions du visible et de l'invisible, superposées et simultanées. La Kabbalah du code source, en plongeant dans les EMI, est devenue évidente. Évidence. Elle compose et recompose encore et encore, incessamment, toutes les structures de conscience. Quel que soit l'événement, douloureux ou joyeux, en lequel elle se formule, sa présence est joie profonde. Cette joie naît au cœur du vortex du champ, dans cette plénitude indescriptible de vérité et d'amour, lorsqu'on redevient cette mémoire avec un grand M, cette mémoire des origines, cette mémoire source. Et voilà ce que cette mémoire a réveillé. Ce qui est, ce qui est conscient d'être, est né d'une transcendance, ou plutôt d'une intention en une transcendance. Pas vraiment une volonté, car cela impliquerait déjà quelque chose de dynamique, mais bien une intention en cette transcendance. L'intention de se révéler en tant qu'être, l'intention comme origine de toute émanation, mais attention, origine n'inscrit rien, absolument rien, dans un temps linéaire. Origine ne signifie pas commencement. Cette intention est comme une orientation en la transcendance, celle d'émaner ce qui va se révéler en tant qu'être et ainsi faire jaillir la conscience d'être. Nous parlons bien de la source de toute émanation, mais soyez attentifs. S'il y a bien en cette transcendance une intention de se révéler en tant qu'être, et c'est le point source de l'origine du champ, non encore manifesté, juste potentiellement contenu en l'intention. Il y a aussi, et simultanément, l'intention de ne pas se révéler en tant qu'être, car sinon cela effondrerait l'idée même de transcendance. Le champ de conscience enfermerait l'être, ou plutôt cristalliserait une idée, une image de lui. Il n'y aurait plus de révélation vivante et spontanée, juste une idole. On serait dans une matrice close, on serait prisonnier du saisissement. Nos psychismes seraient aussi figés qu'un insecte pris dans l'ambre. On serait tous figés dans une pensée unique et tyrannique. Ça ne vous rappelle rien ? La question du non-être a fait couler beaucoup d'encre, provoqué de grands débats au cœur même de certaines sagesses quant à l'être et au non-être. Aucune représentation ne pourra jamais définir la transcendance, même en la confondant au non-être. Ce n'est qu'une vaine tentative du mental humain quand il est au service du moi, ce moi qui cherche absolument à se raccrocher à un repère pour ne pas disparaître. Or, lorsqu'on abandonne tout attachement, et ici je ne prône aucun ascétisme, je parle juste d'attachement et d'identification à nos formes de vie. Lorsqu'on abandonne tout, c'est la vie sans limite qui se révèle. Et si on s'approche encore du point zéro et qu'on le franchit, la conscience suprême, elle-même avec tout son champ, est aspirée en cette insaisissable transcendance. Je comprends que ce soit insupportable pour le moi de surface. Il n'existe que par son attachement à l'idée de lui-même, à son histoire et à ses illusions. Il a tellement besoin de se remplir, il est comme un glouton qui a peur de manquer, toujours insatisfait de ne pouvoir combler son puissant fond. Il se nourrit de tout ce qui se balade dans le champ éthérique. Toutes les croyances, même les plus philosophiques, scientifiques ou spirituelles, et d'ailleurs pourquoi pas, tout est à respecter, puisque ce sont des formes que se donne la conscience. Mais il est important de réaliser que nos remplissages ne servent qu'à éviter de nous confronter à la peur de perdre le contrôle. Les expérienceurs des EMI, qui ont été au plus loin, même s'ils n'ont pas les mots au retour, savent qu'en étant devenu le rien, l'indicible, c'est le sans limite qui est devenu leur centre. Ce vide du moyeu de la roue sans lequel elle ne pourrait tourner. Ce même vide au centre du champ, le point zéro, le vortex vers la transcendance, l'au-delà de l'au-delà. Parler du champ de conscience est important. Nous avons à l'explorer pour voir ce que nous sommes et voir ce que nous sommes dans cet écho holographique. Nous avons à vivre cette exploration pour nous libérer de l'esclavage des formatages. Mais nous ne pouvons pas non plus nous identifier à cette exploration, car ce serait une nouvelle stratégie mentale pour éviter le mystère de la transcendance. En tentant de définir le champ, science et nouvelle spiritualité croient qu'elles vont faire reculer les limites d'une certaine ignorance. Et c'est partiellement vrai, mais elles vont juste recréer une nouvelle formulation, certes, quelque peu libérée de certaines prisons du moi de surface, mais quand même toujours une prison, juste plus spacieuse et plus dorée, comme je l'ai dit précédemment. Le psychisme figé par l'évitement, le psychisme qui a perdu le feu de son infinitude, ne peut plus entrer dans l'œil du cyclone. Il se cristallise alors dans l'axe d'un temps linéaire, en se faisant esclave de toutes ses représentations. Nous voulons bien croire que nous sommes éternels, mais ce n'est qu'une croyance et elle n'est qu'un baume illusoire sur notre peur fondamentale d'une éternité qui avalerait notre moi pour l'absorber dans son effroyable vide. Voyez comment cette peur et cet évitement ont fondé les bases déviantes de nos sociétés. Si de la transcendance est né le champ, et que le champ est la conscience matricielle qui révèle l'être et donc la conscience d'être, et qu'on réalise que ce n'est qu'une face de l'infinie transcendance, alors, point de suspension. C'est là qu'on entre dans la résonance et le cœur vibre de joie quand il n'a plus besoin de définition. Mais, me direz-vous, le champ de conscience est lui-même infini. Il y a des mondes et des mondes dont on n'a même pas idée aujourd'hui. On commence à peine, surtout en Occident, à concevoir une exploration de notre double nature, visible et invisible, sous-lumineuse et supralumineuse, alors penser qu'il y a un au-delà du champ paraît inconcevable. Mais sans cet au-delà du champ, il n'y aurait pas le champ. C'est pour cela que la Kabbalah nous initie à la déstructuration de la psyché qui s'est confondue à ses représentations mentales et qui a cristallisé sa perception de toute chose, y compris de la matière et du corps. Cette psyché-là ne peut concevoir une transcendance et encore moins son mystère. Alors qu'une psyché libre sait voyager à la surface du miroir et simultanément dans tous les rayons multidirectionnels qui rebondissent du miroir lorsque la lumière s'y reflète. La psyché sait alors en jouir et en jouer sans s'identifier, même au plus éblouissant. Elle sait faire des sauts hors des limites du moi conditionné. Elle sait ne pas idéaliser le champ pour en faire une nouvelle prison. Elle sait repérer les ruses du petit mental qui ne cherche qu'à éviter l'implosion des repères et des nouvelles croyances qui remplacent les anciennes. L'intention originelle contient l'accompli que nous avons à réaliser. C'est une mémoire des origines cycliques et non linéaires. Quelles que soient nos résistances, on ne peut éviter la révélation de l'être que nous sommes déjà, et on ne peut éviter de se laisser happer par le mystère de la transcendance.
Merci beaucoup, Jordan, et à la semaine prochaine.
Merci Patrick, merci à tous.